Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le tout dernier numéro de la Revue française de comptabilité. C'est le 601, celui d'octobre 2025.
Bonjour. Oui, une revue toujours très attendue par la profession.
Exactement, c'est un peu la référence pour les professionnels du chiffre. Et ce numéro m'a vraiment interpellée, surtout avec son dossier spécial « Associations et fondations, des enjeux décisifs pour des acteurs indispensables ».
Ah oui, un titre qui résume bien la situation actuelle.
Complètement. Alors, notre objectif pour les minutes qui viennent, c'est d'aller chercher ensemble les pépites, les infos vraiment clés de cette revue.
D'accord.
On va décortiquer ce que ça implique, bon, surtout pour le secteur non lucratif, les nouvelles règles du jeu et puis comment la profession elle-même évolue.
Une synthèse utile, en somme.
C'est ça, l'idée, c'est de ressortir d'ici avec une vision claire, à jour, sans forcément avoir lu les 100 pages. Alors, on y va. Commençons par ce fameux dossier.
Allons-y.
Le premier constat, il est assez frappant. On parle quand même de 1,3 million d'associations actives en France. C'est énorme, c'est un pilier de notre société, mais qui semble de plus en plus sous tension.
Oui, c'est ce que dit la revue.
Elle cite des chiffres qui, franchement, donnent à réfléchir. Plus de la moitié, 53%, jugent leur situation financière difficile. Pareil pour le bénévolat, 51% disent avoir du mal. Et puis, les liquidations judiciaires, hop, plus 17% en 2024 par rapport à 2022.
Oula, oui, ce serait pas rien.
Ça dessine un paysage assez sombre, non?
Quelles sont les racines de ces difficultés, d'après la revue?
Effectivement, le tableau dépeint, c'est celui d'une pression qui vient de partout, en fait. D'un côté, on a les besoins sociaux qui augmentent. Les populations vulnérables, ben, elles sollicitent de plus en plus ces structures.
Logique.
Et de l'autre côté, eh bien, les moyens ne suivent pas, voire ils diminuent. La baisse des financements publics, là, elle est spectaculaire.
Ah oui, ouais. Vous avez des chiffres?
Oui, on est passé d'une part moyenne de 34% dans le budget des associations en 2005 à seulement 20% en 2024.
20% seulement? C'est énorme comme baisse.
C'est énorme, oui. Ça change radicalement le modèle économique historique de beaucoup d'associations. Et les dons privés, bon, malgré la générosité, ça ne suffit pas toujours à compenser, hein.
J'imagine.
Ajoutez à ça des délais de paiement qui s'allongent, et là vous avez un cocktail assez dangereux pour la trésorerie.
D'accord. Donc moins d'argent public, des dons qui peinent à compenser, des paiements plus lents.
Exactement. Et ce n'est pas tout. La revue pointe aussi la pression qui monte d'une logique de marché, notamment via la généralisation des appels à projets.
Ah oui, ça on en entend beaucoup parler.
Bah oui, ça demande des compétences nouvelles, ça met en concurrence constante. Et puis l'inflation récente, évidemment, ça n'arrange rien. Ça pèse sur toutes les charges. Les salaires, les loyers, l'énergie.
C'est sûr.
Et comme si ça ne suffisait pas, par-dessus tout ça, s'empilent les obligations de conformité et de reporting. C'est assez lourd.
C'est-à-dire quoi comme obligation?
Alors, il faut maintenant déclarer les fameux bénéficiaires effectifs, respecter des règles de plus en plus strictes pour la lutte contre le blanchiment, la LCBFT, ou pour la prévention des abus sexuels, la PSEA. Il faut signer un contrat d'engagement républicain, répondre à des exigences RSE.
On a l'impression d'une accumulation, une sorte de millefeuille de contraintes qui pèsent lourd sur des structures qui sont souvent fragiles à la base.
C'est tout à fait le sentiment qui ressort de la lecture, oui. Sans oublier les difficultés récurrentes à mobiliser et surtout à fidéliser les bénévoles. C'est un vrai sujet.
Oui, toujours.
Et pour les ONG qui travaillent à l'international, alors là, la complexité monte encore d'un cran.
Ah oui.
Bah oui, il faut gérer des partenaires locaux dans des contextes parfois très différents, assurer une traçabilité parfaite des fonds qui traversent plusieurs pays, jongler entre la réglementation française, celle du pays où on intervient, et puis les exigences spécifiques de chaque bailleur de fonds.
Ça doit être un sacré casse-tête.
C'est un véritable casse-tête, oui. La revue mentionne aussi, ou c'est plus anecdotique peut-être, ces fonds de dotation créés par certaines collectivités locales.
Pour contourner les baisses de dotation?
Voilà, un peu l'idée. Mais la revue souligne bien qu'attention, ils ne peuvent pas recevoir de financement public direct. Et ça pose des risques juridiques, notamment vis-à-vis des règles des marchés publics.
D'accord. Bon, face à ce diagnostic, qui est quand même assez préoccupant, est-ce que la revue propose des pistes, des leviers pour renforcer la résilience de ces acteurs? Et quel peut être le rôle concret d'un conseiller, comme un expert comptable par exemple?
Oui, heureusement, des leviers sont identifiés. Le premier, c'est vraiment la prévention, c'est-à-dire détecter très tôt les signaux faibles, avoir une gestion de trésorerie, mais alors très rigoureuse.
Anticiper, quoi.
Exactement. Et des outils existent pour accompagner, comme le dispositif local d'accompagnement, le fameux DLA. Il aide justement les organisations de l'ESS à se consolider.
D'accord.
Ensuite, la revue insiste beaucoup sur l'importance de créer des synergies, mutualiser des moyens, partager des fonctions support, voire envisager des regroupements. D'ailleurs, un décret récent, le 2025-780, vient faciliter ces opérations.
Ah, intéressant. Et pour les ressources ?
Alors là, la diversification reste une piste cruciale. Développer le mécénat, d'entreprise ou de particulier.
Mais ça aussi, chercher des fonds privés, ça demande des compétences spécifiques, non ? Et la concurrence doit être rude.
C'est vrai, tout à fait. Et c'est pour ça que la revue souligne l'importance d'une réflexion stratégique continue sur le projet associatif lui-même et sur son modèle économique. Il faut les revoir régulièrement.
Et c'est là que le conseiller intervient plus fortement.
C'est là que l'expert comptable notamment trouve toute sa place. Pas seulement pour tenir les comptes, mais comme un vrai partenaire stratégique.
Comment ça ?
Eh bien, il peut aider à poser le bon diagnostic financier, à construire un budget prévisionnel qui soit réaliste, à mettre en place un contrôle interne adapté, ça c'est essentiel pour assurer les financeurs.
Oui, bien sûr.
Il peut aussi former les dirigeants bénévoles. Souvent, ils n'ont pas forcément toutes les clés de lecture financière. Et puis, quand les difficultés arrivent, son rôle est crucial.
Pour trouver des solutions ?
Oui, pour accompagner vers les bonnes solutions, négocier avec les créanciers, envisager un mandat ad hoc, une conciliation, peut-être faire appel à la médiation du crédit, voire accompagner une restructuration, ou même une cessation d'activité, mais de façon la moins douloureuse possible.
D'accord.
Et pour ça, la revue insiste bien. Il faut comprendre la culture propre au monde associatif. Ce n'est pas une entreprise comme une autre. Ah, et un petit mot aussi sur le dispositif APESA, qui est mentionné pour le soutien psychologique qu'il peut apporter aux dirigeants qui traversent ces moments difficiles.
C'est important de le souligner. On voit bien que le rôle du conseil dépasse largement la simple technique comptable. Alors, venons-en justement à un autre gros morceau de la revue, les nouvelles obligations réglementaires et comptables. On sent un vrai durcissement, là aussi.
Oui, c'est clair.
Quels sont les changements qui vont le plus impacter le quotidien des associations et de leurs conseillers, d'après vous ?
Il y a plusieurs points vraiment saillants. D'abord, la modernisation des états financiers. Ça découle du règlement ANC 2022-06 et ça s'applique, attention, dès janvier 2025.
Déjà. Et qu'est-ce qui change concrètement ?
Le changement dont on parle le plus, c'est la définition du résultat exceptionnel. Pour être qualifié d'exceptionnel, maintenant, un produit ou une charge doit découler d'un événement qui est majeur et inhabituel.
Majeur et inhabituel, c'est-à-dire ?
Majeur, ça veut dire que ça a un impact significatif, susceptible d'influencer le jugement de celui qui lit les comptes. Et inhabituel, ça veut dire que ce n'est pas lié à l'exploitation normale, courante de l'association.
D'accord. Et concrètement, ça change quoi ? Un exemple, peut-être ?
Prenons un exemple classique, un redressement fiscal ou URSSAF. La revue explique que, sauf cas très particulier, ce n'est plus considéré comme exceptionnel. Ça fait partie d'une certaine manière des aléas de la gestion courante.
Ah oui, d'accord.
En revanche, si une association vend son siège social historique, ça pourrait être classé en exceptionnel si l'impact financier est majeur et si, évidemment, ce n'est pas une activité récurrente pour elle.
Je vois.
Autre changement notable avec ce règlement, la suppression de la technique du transfert de charges. Par exemple, les produits et charges liés à la cession d'actifs non financiers, ils remontent maintenant en résultat d'exploitation. Ça change un peu la lecture de la performance.
D'accord, faut s'y habituer. Un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, l'obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs. Ça s'étend aux associations ?
Oui, la revue le confirme. La loi d'avril 2024 étend bien cette obligation, qui visait au départ les sociétés, aux associations, mais aussi aux fondations et aux fonds de dotation.
Et la revue en dit quoi ?
Elle ne manque pas de souligner, avec une pointe d'ironie peut-être, l'absurdité du terme « bénéficiaire » dans un contexte non lucratif, où il n'y a pas d'appropriation des profits, par définition.
C'est vrai que le terme est étrange ici.
Oui, mais au-delà du mot, ce sont surtout les difficultés pratiques qui sont mises en avant. La grande question c'est, qu'y faut-il déclarer exactement ? Les membres du conseil d'administration, les dirigeants salariés, peut-être certains cadres clés ? La loi manque un peu de précision sur ce point pour les associations.
Et la procédure elle-même ?
Elle s'annonce complexe. Il y a un portail unique, en ligne, qui est censé alimenter à la fois le Registre national des entreprises, le RNA, le Registre national des associations, le RNA, et puis un registre spécifique pour les fondations. Et surtout, il y a une obligation de mise à jour sous 30 jours en cas de changement.
Waouh, 30 jours ?
C'est une charge administrative qui n'est pas négligeable, surtout pour les petites structures. Et ça pose aussi des questions sur la protection des données personnelles, le RGPD.
On imagine bien le casse-tête en perspective. Est-ce que la revue aborde des cas plus spécifiques ? comme celui des associations cultuelles. Il y a eu des lois récentes les concernant, non ?
Oui, tout à fait. Un article leur est consacré et il met en lumière plusieurs points de vigilance accrus. D'abord, les missions de reçus fiscaux. C'est extrêmement encadré, il faut un agrément spécifique, des mentions obligatoires très précises sur le reçu, et les sanctions en cas d'irrégularité sont lourdes.
D'accord. Quoi d'autre ?
Autre point, l'obligation de déclarer chaque année les dons et financements qui viennent de l'étranger dès qu'ils dépassent 15 300 euros. Et surtout, le risque permanent pour elles de perdre leur statut cultuel et donc les avantages fiscaux qui vont avec si l'association ne maintient pas une activité exclusivement cultuelle.
Ah oui, l'exclusivité est clé.
Et fondamentale. Et la gestion des immeubles de rapport est aussi scrutée. C'est possible seulement s'ils ont été acquis à titre gratuit et si leurs revenus ne dépassent pas 50% des ressources annuelles. Enfin, la distinction entre les ministres du culte qui relèvent d'un régime social spécifique, la CAVIMAC, et les éventuels salariés, ça reste un sujet complexe à gérer.
On voit bien que les règles se précisent et se durcissent dans beaucoup de domaines. Y a-t-il d'autres obligations comptables spécifiques qui sont mises en avant dans la revue ?
Oui, on nous rappelle l'obligation de tenir une comptabilité analytique pour les organismes de formation par apprentissage, les OFA. Ça, c'est depuis 2020.
La compta analytique, d'accord.
Ils doivent transmettre chaque année leurs données de coûts via une plateforme dédiée qui s'appelle Carousel à France Compétences, l'organisme régulateur. Mais attention, cette transmission, ce n'est pas juste déclarative. Elle doit être accompagnée d'une attestation de fiabilité.
Signée par qui ?
Signée par un expert comptable ou un commissaire aux comptes. L'enjeu derrière tout ça, c'est évidemment la régulation des coûts de l'apprentissage et la fixation des fameux niveaux de prise en charge, les NPC, par contrat.
Logique. Et le fameux bilan carbone alors ? On en parle aussi pour les associations. Est-ce que ça devient obligatoire ?
Alors, ce n'est pas une obligation légale généralisée pour toutes les associations à ce jour, mais la revue le présente très clairement comme un outil stratégique qui devient incontournable.
Un outil stratégique ?
Oui, c'est cette méthodologie développée par l'ADEME et l'Association pour la transition basse carbone, l'ABC, qui permet de mesurer l'empreinte carbone d'une structure. Au-delà de l'aspect réglementaire pour certaines, ou du reporting volontaire d'ailleurs, la revue note sa compatibilité avec le standard VSRIME pour les PME et OSBL. Les bénéfices sont vraiment multiples.
Comme quoi, par exemple ?
Identifier des gisements d'économie, sur l'énergie, les transports, améliorer son image, attirer des financements ou des talents qui sont sensibles à ces enjeux, et puis, surtout, aligner ses pratiques avec ses valeurs. C'est important pour beaucoup d'associations.
Oui, c'est cohérent.
Pour que ça marche bien, ça demande une implication de tous, une définition du périmètre d'analyse qui tienne compte des spécificités associatives, comment on valorise le bénévolat ou les dons en nature, par exemple. Et ça doit surtout aboutir à un plan d'action concret pour réduire les émissions. D'ailleurs, le Conseil national de l'Ordre des experts comptables propose des outils pour accompagner là-dessus.
C'est intéressant de le voir présenté comme ça, pas juste comme une contrainte de plus, mais comme un levier potentiel. Et quid du contrôle légal ? L'intervention du commissaire aux comptes, le CAC, dans ce secteur, c'est toujours aussi complexe ?
Ah oui, la revue rappelle que déterminer si une association, une fondation ou un fonds de dotation doit nommer un CAC, ça reste complexe. Les seuils qui déclenchent l'obligation, ils varient selon la forme juridique, le montant des financements publics reçus. Le seuil classique pour une asso, c'est 153 000 euros de subventions ou de dons défiscalisables.
D'accord.
Ou si elle exerce certaines activités spécifiques, comme la formation professionnelle continue, ou si c'est un club sportif d'une certaine taille. Bref, c'est un vrai dédale réglementaire qui demande une veille juridique pointue.
On comprend.
Et enfin, pour boucler ce tour d'horizon réglementaire, un mot sur les ONG. Et là, la revue insiste vraiment sur la nécessité absolue pour elle de maîtriser non pas une, mais plusieurs couches de réglementation. La française, bien sûr, mais aussi celle du pays où elles interviennent, et puis celle souvent très très détaillée des bailleurs de fonds internationaux.
Ça fait beaucoup de strates.
Énormément. Et dans ce contexte, une traçabilité financière sans faille et un contrôle interne hyper robuste, ce ne sont plus des options, ce sont des conditions de survie pour maintenir la confiance et donc l'accès au financement.
Tout cela dessine un environnement juridique et financier d'une complexité redoutable, on peut le dire. Logiquement, ça doit aussi générer des risques accrus. Est-ce que la revue met en garde contre certains points de vigilance juridique particuliers ?
Absolument. Deux points sont particulièrement développés.
Le premier, ça concerne la responsabilité des dirigeants en cas de difficultés financières qui mènent à une procédure collective. Ça peut arriver à une association qui a une activité économique.
Oui, et alors ?
Alors, la revue rappelle que la jurisprudence reste quand même mesurée. Pour engager la responsabilité personnelle d'un dirigeant sur ses biens propres, c'est l'action en comblement de passif, il faut prouver une faute de gestion qui soit claire, caractérisée, commise avant l'ouverture de la procédure et qui soit directement la cause de l'insuffisance d'actifs.
Donc, ce n'est pas automatique ?
Non. Un simple manque de coopération avec les organes de la procédure, une fois que celle-ci est ouverte, ça ne suffit pas pour engager cette responsabilité-là.
Ça peut rassurer un peu les dirigeants bénévoles de bonne foi qui se retrouveraient dépassés par les événements.
Dans une certaine mesure, oui. De même, pour prononcer une interdiction de gérer, il faut des faits qui soient précis et intentionnels. Par exemple, avoir tardé à déclarer la cessation des paiements, ce n'est sanctionnable que si c'est fait sciemment, c'est-à-dire délibérément, en connaissance de cause.
Il faut l'intention.
Voilà. Poursuivre une exploitation qui est lourdement déficitaire, ce n'est une faute qui justifie l'interdiction de gérer que si le dirigeant l'a fait dans son intérêt personnel. Un arrêt récent de la Cour de cassation, qui date du 26 mars 2025 et qui est cité par la revue, insiste vraiment sur cette nécessité de bien caractériser les fautes. On ne sanctionne pas la simple erreur de gestion ou le manque de chance, quoi.
C'est une nuance importante. L'autre point juridique abordé concerne les baux commerciaux.
C'est ça ?
Oui, et plus spécifiquement une sanction un peu particulière, le réputé non écrit. Le réputé non écrit.
C'est une sanction qui vient de la loi Pinel de 2014 et qui a une particularité. Elle est imprescriptible. Ça veut dire qu'on peut l'invoquer à tout moment, même des années après la signature du bail.
Ah oui, quand même.
Elle vise à priver d'effet toute clause d'un bail commercial qui serait contraire à une disposition d'ordre public du statut des baux commerciaux. La revue donne des exemples fréquents. Des clauses qui limitent le droit au renouvellement, des clauses qui organisent une indemnité d'éviction non conforme, des clauses de révision de loyer illégal, des clauses résolutoires trop sévères, ou encore des clauses qui entravent la cession du bail.
Et le risque, c'est quoi ?
Le point clé souligné par la revue, c'est que cette sanction, comme elle est imprescriptible, elle peut potentiellement affecter des baux très anciens, même conclus avant 2014. Son champ a même été étendu récemment par la jurisprudence au cas du transfert universel de patrimoine professionnel, le TUP.
Donc prudence.
Oui, c'est un vrai sujet d'attention pour quiconque rédige ou gère des baux commerciaux. Parce qu'une clause réputée non écrite, elle est considérée comme n'ayant jamais existé. Et ça peut avoir des conséquences financières rétroactives très lourdes.
Voilà qui incite effectivement à la plus grande prudence dans la rédaction et la relecture des contrats de bail. On voit que le présent est complexe. Mais la revue regarde aussi vers l'avenir, notamment celui de la profession comptable. Un mot sur l'évolution des formations ? Quoi de neuf de ce côté-là ?
Oui, la revue présente la réforme des programmes du DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion, et du DSCG, le diplôme supérieur. Cette réforme doit entrer en vigueur à la rentrée 2026.
Et l'idée derrière, c'est quoi ?
L'idée maîtresse, c'est de renforcer l'approche par compétences. Pour mieux coller aux attentes réelles du marché, des cabinets, en s'appuyant sur le référentiel de compétences qui a été défini par le CNOEC, l'Ordre des experts comptables.
Et ça se traduit comment dans les programmes ?
Concrètement, ça se traduit par une intégration beaucoup plus forte des enjeux de durabilité, la RSE, le reporting extra-financier et du numérique, les systèmes d'information, la data analyse, l'intelligence artificielle.
Logique, vu tout ce qu'on a dit.
Exactement. Il y a aussi une volonté affichée de mieux articuler les deux diplômes. Le DCG est vraiment pensé comme le socle sur lequel vient s'appuyer le DSCG en évitant les redondances.
Des exemples de changements
Oui, par exemple, l'UE8 Système d'information et de gestion en DCG est entièrement repensé. L'US7 Management met plus l'accent sur le comportement organisationnel. Et en DSCG, l'UE13 Communication professionnelle intègre une analyse de situation de communication vécue et une réflexion sur l'impact de l'IA dans les métiers du chiffre.
Donc une formation qui essaie de s'adapter à cette réalité de plus en plus exigeante, de plus en plus multiforme qu'on vient de décrire tout au long de notre échange.
C'est exactement l'objectif affiché, préparer les futurs professionnels à naviguer dans cette complexité croissante. Que ce soit pour accompagner une PME classique, une start-up de la tech ou justement une association ou une fondation avec toutes ses spécificités.
Bien. Pour conclure cette exploration très riche du numéro 601 de la Revue française de comptabilité, ce qui ressort avec force, je trouve, c'est cette tension croissante pour le secteur non lucratif. Il est pris entre une mission sociale essentielle, indispensable, et des contraintes économiques et réglementaires qui sont de plus en plus fortes.
C'est une très bonne synthèse, oui.
Et pour les professionnels qu'ils accompagnent, ça demande clairement de monter en compétences, d'élargir leur palette d'outils et de services, et d'adopter une posture beaucoup plus stratégique, non?
C'est tout à fait ça. La conformité devient un vrai parcours d'obstacles. C'est indéniable. Mais, et la revue le montre bien aussi, il ne faut pas voir que les contraintes.
Ah.
Des outils comme la comptabilité analytique pour les EFA, ou le bilan carbone pour toutes les structures, peuvent être de vrais outils de pilotage stratégique s'ils sont bien utilisés, s'ils sont bien compris. Savoir décrypter ces nouvelles règles, comprendre leurs implications bien au-delà du texte, c'est là que se situe la vraie valeur ajoutée du conseil aujourd'hui.
Absolument. Alors une dernière question, peut-être pour ouvrir la réflexion au-delà de notre discussion d'aujourd'hui. Avec ces pressions financières et ce contrôle réglementaire qui s'intensifie sur le secteur associatif, est-ce que la notion même d'utilité sociale ne risque pas d'être redéfinie ou du moins perçue différemment? Et quel rôle cette transparence financière dont on a tant parlé va-t-elle jouer dans la légitimité et la reconnaissance future de ces acteurs qui restent, comme le dit le titre du dossier, si indispensables? Voilà, matière à réflexion.